Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Ce matin, une émission pour mieux gérer votre temps. Du temps pour ralentir, s'occuper de soi, partager plus de moments avec sa famille, ses amis, pratiquer des activités qui vous tiennent à cœur, vous reposer en regardant le plafond, lire, marcher aux quatre vents, regarder des séries, des films, jardiner, cuisiner, broder, bavarder des heures au téléphone, donner du temps à sa moitié. Bref, comment bien organiser son temps pour ne pas s'enliser dans des retards accumulés qui provoquent un grand stress, vivre plus intensément une vie dévorée par Chronos, le dieu du temps, et ne plus passer à côté de l'essentiel. Pas facile à faire, mais nous allons vous y aider. Avec nous ce matin, le youtubeur Fabien Olicard et les psychiatres Christine Mirabel-Saron et François Lelore. Racontez-nous vos astuces pour mieux gérer votre temps au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Vers 11h25, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Julia Foyce. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bonjour Fabien Olicard.
Bonjour Ali.
Vous êtes youtubeur. Longtemps, vous avez été procrastinateur et un jour, vous avez décidé de mieux organiser votre temps. Vous publiez donc chez First « Votre temps est infini », sous-titré « Et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez ». Bonjour docteur Christine Mirabel-Saron.
Bonjour,
bienvenue.
Ali.
Vous êtes psychiatre et vous avez publié avec Neila Chidiac chez Odile Jacob « Bien gérer son temps pour vivre mieux ». Bonjour François Lelore.
Bonjour. Ali.
Bienvenue, vous êtes psychiatre et vous avez notamment publié avec Christophe André « La force des émotions, amour, colère, joie » en poche chez Odile Jacob. Alors, Fabien Olicard, longtemps, je l'ai dit, vous avez été un procrastinateur et longtemps vous avez accumulé les retards, longtemps vous avez mené un combat inégal avec Chronos, le dieu grec du temps.
Oui, c'est vrai, mais en fait, ce qui est encore le cas aujourd'hui, je suis toujours procrastinateur, mais abstinent. Voilà, c'est juste ça, en fait. Je crois que c'est, j'ai admis que c'était un peu dans mes gènes d'avoir ce tempérament-là. Et du coup, j'ai une chance, c'est que je suis très curieux et j'ai envie de faire plein de choses dans ma vie. Et donc, pour réussir à les faire, il a fallu que je mette tout un système en place pour m'aider à ça. Et surtout, avec la conscience qu'il fallait pas que ce système soit violent ou douloureux, parce que sinon, j'allais pas le tenir. Et c'est comme ça que vers l'âge de 15 ans, j'ai commencé à essayer de me reprendre en main.
Et longtemps, vous avez eu la sensation d'être enchaîné, de ne pas être libre et autonome.
Oui, exactement. Tout coulait sur moi, tout s'enchaînait. Il fallait gérer les urgences et il fallait gérer les choses que j'avais repoussées jusqu'à la dernière seconde. Je veux dire, j'ai même les révisions du bac ont été faites le matin même. Enfin, ça a aucun sens, quoi, hein, au final. Et puis, je me suis dit, ok, si je cherchais à voir quels étaient les buts dans ma vie, mais le but, c'est pas genre avoir une belle voiture ou aller voyager au Mexique. Quels sont les buts profonds de ma vie qui vont me rendre heureux? J'ai appelé ça mes mantras. J'ai trouvé deux mots. C'est liberté et autonomie. Et une fois que j'ai trouvé ça, ça a été ma boussole déjà pour prendre des décisions. Et d'un coup, les choses s'organisaient déjà mieux.
Docteur Christine Mirabel-Saron, quand on manque de temps, on a l'impression d'être le lapin d'Alice au Pays des Merveilles qui court après le temps. Rappelons que la sensation de manquer de temps, c'est l'un des plus grands stresseurs.
Tout à fait. C'est-à-dire notre sensation, notre rapport au temps, comment on le vit, comment on le perçoit, comment dans sa journée, eh bien, on a tous, enfin beaucoup d'entre nous, tendance à courir après. Avec l'idée qu'il est infini et que ben on peut toujours faire quelque chose au dernier moment, on peut encore rajouter ça, puis hop, on arrive en retard, par exemple. Mmh. Donc cette sensation, effectivement, faut arriver à trouver des critères, trouver un ancrage, comme déjà, par exemple, avoir un seul agenda où on met tout et pas deux, trois, quatre endroits dispersés, ou encore autre astuce, évaluer quand même le temps qu'on a devant soi pour une tâche qu'on a à faire.
Pourquoi c'est un facteur de stress?
C'est un facteur de stress parce que ça, entre la façon dont vous pensez votre temps et ce qui va se passer en réalité, il y a un décalage. Donc ça fait que vous imaginez que vous avez vraiment le temps de faire quelque chose, puis quand vous le faites, ben il y a les imprévus. Certains coups, on subit plein d'imprévus et cela on les prend pas en compte. On a les imprévus, c'est essentiellement viennent des autres. Hein. C'est pas tellement nous un petit peu, mais essentiellement celui qui vient poser une question, celui qui vient votre voisin que vous rencontrez de façon sympathique. Et puis hop, ça vous met en retard et donc vous êtes de plus en plus stressé. Vous n'avez plus le sourire, parlez plus à cette personne qui était sympa. Voilà. Donc c'est une sorte de stress permanente au final.
François Lelore, ce que nous sacrifions le plus, c'est le temps pour soi, ce temps qui nous nourrit corps et âme.
Oui, c'est le risque, effectivement, c'est de se faire manger par son environnement. Et comme disait Christine, alors je voudrais préciser que Christine était vraiment une championne de gestion du temps, puisque Elle est multi-active, elle écrit des tas de livres, elle dirige des associations. Elle... Donc, quand vous entendez Christine vous parler de la gestion du temps, c'est comme si vous entendiez Camille Lacour vous parler de natation. Et pour le stress, effectivement, du temps, c'est qu'en fait, on n'arrête pas d'évaluer à la fois nos ressources en temps, en moyens, par rapport à la tâche à accomplir. Et quand on commence à être en retard, ben voilà, on sait que nos ressources diminuent et ça nous met une boule dans le ventre. Et la première cause, d'ailleurs, de stress en entreprise, on dit, c'est la surcharge en temps limité.
Fabien Olicard, vous évoquez dans votre livre toutes ces plages de temps que vous appelez non-temps.
Oui, c'est en fait, je me suis fait une nomenclature du temps avec effectivement le temps pour soi, le temps personnel, le temps obligatoire, le temps de travail. Et ce non-temps-là me fascine parce qu'en plus, je le vois grignoter du terrain aujourd'hui à l'aide des applications, par exemple, sur les téléphones portables qui sont faits en lien avec des neuroscientifiques pour qu'on reste sur l'application. Donc, tout est fait avec. Et ce non-temps-là, c'est tout votre temps pour vous qui est consommé là-dedans, en fait. C'est le fait de se poser sur le téléphone pour aller chercher une information et d'y être encore une heure et demie après alors qu'on ne l'a pas décidé. Et le gros problème pour moi, c'est est-ce que tu as décidé d'être dans cette tranche de temps-là ou pas ? Si c'est le cas et si c'est assumé, pourquoi pas ? Si c'est fait en pleine conscience, mais si c'est pas voulu, alors où sont passées ces deux heures ?
Alors sur la question de notre rapport au temps, je vous renvoie à la belle émission que nous avions faite avec l'astrophysicien Carlo Rovelli le 1er mars 2018. Alors docteur Christine Mirbel-Sarron, quelles sont les principales raisons de mieux gérer son temps ?
D'abord, c'est sa démarche personnelle. Est-ce que... En fin de compte, j'ai besoin de mieux gérer mon temps. Il y a des gens qui gèrent bien leur temps, d'autres moins. Déjà, quels sont, moi, mes besoins, déjà, au niveau du temps. C'est, je pense, le premier élément. Et puis, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être plus calme, plus cool? Est-ce que je veux être à l'heure? Est-ce qu'en fin de compte, je prends pas de temps pour moi, ce qui vient d'être dit à l'instant, et qu'il faut que je mette une plage de temps pour moi, parce que, en fin de compte, je fais tout pour les autres? Parce que j'aime bien les autres et j'aime bien être avec eux et je sais pas dire non. Et que, bah oui, voilà, à force, je suis engloutie ce temps par les autres et je prends pas le temps pour moi. Ou du temps, tout simplement, pour penser, réfléchir, me poser sur un canapé, rêver. Voilà, c'est déjà quel est mon objectif. Pourquoi je me pose un problème par rapport au temps? Est-ce que c'est des retards? Est-ce que c'est simplement un équilibre, une harmonie par rapport à moi-même? Et pour revenir sur ce qui vient d'être dit, c'est très important, par l'invité précédent, c'est le côté, le matin, qu'est-ce que je décide pour moi? C'est-à-dire, le matin, qu'est-ce que je veux pour moi en termes de temps, pour ce matin, pour cet après-midi? Mais vraiment, le matin même. Et qu'est-ce que je veux et quels sont mes objectifs par rapport au temps?
Fabien Olicard.
Mais ça se complète tout à fait. Effectivement, c'est en fait ça rejoint l'idée d'avoir toujours conscience d'eux. Et cette conscience, elle se subit pas au fur et à mesure de la journée, elle se décide pas à la dernière seconde, elle se planifie dans son lit. On peut déjà commencer à ça et visualiser sa journée et penser à ce qu'on veut vraiment, parce que sinon on sera juste en train de gérer de l'immédiateté. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Christine, très justement, après l'enfer c'est les autres qui vont venir nous interrompre, nous couper dans notre élan.
Fabien Olicard, longtemps vous n'aviez jamais le temps, surtout parce que vous n'étiez pas organisé.
Oui, un manque cruel de méthodologie, et je crois que ces méthodologies, elles sont multiples, et chacun doit trouver un écho entre lui et une méthodologie, qu'elle soit organisationnelle, comme Christine disait, l'agenda, mais ça peut être un bullet journal, ça peut être un agenda papier, électronique, chacun a sa préférence, et il faut pas aller vers le système de l'autre s'il nous va pas. Et puis des outils d'organisation rapide, il y a la matrice d'Eisenhower, par exemple, qui m'aide, moi, quand je ressens un tout petit...
C'est quoi ?
Alors, la matrice d'Eisenhower, c'est... On fait deux colonnes de lignes, on marque en haut urgent, pas urgent, important, pas important, et on reclassifie les prochaines tâches de la journée, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, à l'intérieur. Et là, on voit ce qui est vraiment urgent et important, qui doit être fait maintenant, ce qui n'est pas important et pas urgent, donc pourquoi le traiter, ce qui est important mais pas urgent, donc lui, on va pouvoir ou le déléguer ou le faire un peu plus tard, etc., etc. C'est très utile dans les moments où on se sent un peu débordé. Moi, ça m'arrive encore aujourd'hui. Je me dis, wow, attends, j'en suis où? Je fais quoi? Je vais pas faire les choses dans l'ordre où elles sont tombées. Je vais juste reprendre deux minutes, tac, reclasser un petit peu tout ça. Et en plus, ça permet d'y voir plus clair et ça baisse la charge mentale.
S'organiser, c'est avoir une vision globale du temps que l'on a et de pouvoir décider de ce que l'on va faire.
Tout à fait, exactement. C'est on en revient à ce qu'on disait avec Christine, la conscience des choses et reprendre le pouvoir sur ce temps et ce qu'on va en faire, ce qu'on décide d'en faire et qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur.
François Delors.
Oui, et ce qui paraît, enfin, ce qui est important dans ce qu'a dit Fabien aussi, Christine, c'est quand même penser à ses objectifs de vie, puisqu'au fond, c'est cela qu'on oublie au quotidien, ce qui est vraiment important pour nous. Vous parliez de la liberté. Et ça, c'est important de ne pas se faire manger. Vous savez, en entreprise, on dit, tiens, il faut aligner vos objectifs avec ceux de l'entreprise. C'est souvent ce qu'on dit aux gens. Mais moi, je dirais, c'est très important, d'une manière générale, d'aligner vos tâches du quotidien avec vos objectifs de vie.
Christine Mirabel-Sarron.
Oui, tout à fait. Et faire le point alors, sur les objectifs de vie, peut-être en fin de journée déjà. C'est par rapport à mes objectifs que j'avais planifié ce matin, pour ce temps que j'ai décidé de prendre, où j'en suis. Est-ce qu'en fin de compte, je me suis respectée, je ne me suis pas respectée? Quels ont été les pièges? Afin que bah, demain, ces pièges, je puisse, je les ai vus, les détourner, en prendre conscience. Donc vraiment s'aligner aux objectifs de vie. Et puis, dans la journée, réévaluer régulièrement. À cause, on a dit, hein, tous les imprévus et les autres choses. C'est vraiment... se dire à peu près toutes les deux heures à peu près où j'en suis, et est-ce que c'est ok, est-ce que je suis en accord avec moi-même, est-ce que c'est bien ce que je voulais faire aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment cette régularité de aussi de réévaluer.
Que pensez-vous de l'initiative de la petite île danoise de Somaroy, je ne sais pas si je prononce bien, située au-delà du cercle polaire? Là-bas, les habitants ont décidé de bannir les montres et les horloges.
Oui, c'est vrai, c'est très drôle. Alors, ça a été aussi de leur part un énorme coup de com, en fait, qu'ils ont fait, évidemment.
Mais on en parle, justement.
Ouais, bien sûr. Et ils ont voulu vivre en dehors du temps, mais en même temps, c'est pas idiot parce que eux, ils vivent 6 mois par an, donc en pleine lumière, ou quasiment en pleine lumière. C'est là où la nuit n'arrive jamais. Et du coup, ils ont commencé à respecter, en fait, leur rythme et leur envie. Ils se sont dit, si j'ai envie de tondre ma pelouse à 4 heures du matin, il fait jour. C'est pas parce qu'il est 4 heures du matin que je dois obligatoirement dormir, etc. Et ils se sont mis à vivre comme ça, en respectant leur rythme à eux et en s'adaptant aussi les uns aux autres, parce que chacun déclenchait son propre rythme. Et donc c'est intéressant parce que eux, dans les sondages, se sentent beaucoup plus heureux comme ça et beaucoup moins oppressés.
Christine Mirabel-Sarron pourrait essayer pendant une journée de bannir les téléphones, les horloges.
Oui, on pourrait. On est vite rattrapé par toutes les horloges partout, enfin par le voisin, par même si on peut nous tout abandonner. Et puis je pense qu'aussi c'est un système écologique, c'est-à-dire on peut aussi ici sur notre territoire, dans un endroit très isolé, très calme, vivre au rythme de la nature, vivre à ce rythme qu'on ressent. Mais c'est vrai que dans le quotidien, entre le travail et le reste, on a cette espèce de pression et de pression qu'on nous donne. Il suffit qu'on ait un rendez-vous comme aujourd'hui, où il y a la grève, ouais, voilà, avec la grève des transports. Voilà, donc on a dû calculer pour gérer le temps et arriver.
Allez, nous attendons vos questions et témoignages sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse, et ainsi qu'au standard au 01 45 24 7000. Racontez-nous comment vous arrivez à gérer votre temps. Alexia Rivière, Claire Destacan, Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par Stéphanie Texier. Je vous propose d'écouter une chanson de 1964. Cette année-là naissait l'acteur Bruno Solo et disparaissait l'écrivaine Flannery O'Connor.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court, ou celui qui gronde. Le temps, et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps passé, celui qui va naître, le temps d'aimer et de disparaître, le temps des pleurs, le temps de la chance, le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre, le temps des jeux, le temps des affaires, le temps joyeux, le temps des mensonges, le temps frileux et le temps des songes. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps et rien d'autre, le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite
du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps.
Charles Aznavour interprétait le temps.
Le temps pour tout qui fait coucou à la bonne heure.
Grand bien vous fasse.
Le temps d'histoire pour rien, le temps que je tue pour rire.
Sur France Inter.
10h21 et ce matin nous vous aidons à mieux gérer votre temps. Nous attendons toutes vos questions et témoignages sur l'appli France Inter au 01 45 24 7000 et sur la page Facebook de Grand bien vous fasse.
Ce n'est qu'un lapin avec une veste.
Ah,
et une montre.
Oh, permis, moustache. Je suis en retard.
C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire?
Hé, hey, monsieur.
En retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard.
Il faut que ce soit très important. Une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi.
Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard.
Le célèbre lapin dans Alice au Pays des Merveilles. Alors certains auditeurs nous demandent si mieux gérer son temps ne pousse pas à en faire toujours plus. Fabien Olicard, je rappelle que vous publiez « Votre temps est infini ».
Ça c'est la grande idée reçue. Dès qu'on parle de temps et de gestion du temps ou d'organisation, beaucoup de personnes pensent à productivité, travailler plus, en faire plus. Mais qui a dit ça, à part la personne qui se pose la question à ce moment-là? Gérer son temps, c'est avoir accès à tout son temps de manière consciente. Donc si on veut mieux gérer son temps pour, comme disait Christine ou François tout à l'heure, mieux glander dans le canapé et réfléchir à des choses qui nous concernent, pourquoi pas en fait, hein. C'est toujours ça. Dès qu'on écrit un livre sur le temps, on a l'impression que c'est pour dire et faites-en plus tout le temps, parce que c'est ce qui résonne un peu dans la société aujourd'hui. Plus on est connecté, plus les transports nous rapprochent, plus on a l'impression qu'il faut en faire plus. Pas nécessairement. Gérer son temps, c'est baisser sa charge mentale en priorité.
Docteur Mirabel Sarron. Oui. Je rappelle que vous avez publié « Bien gérer son temps pour vivre mieux » sur cette idée que quand on organise mieux son temps, ça nous pousse à en faire deux fois plus, trois fois plus.
Je rebondis sur ce que vient de dire Mathieu. C'est-à-dire on a toujours ce sentiment quand on parle du temps, on parle du temps professionnel et pas des autres temps. Globalement, on a quatre grandes familles de temps. Le temps professionnel, le temps pour soi, on en a parlé, et souvent c'est celui qui est rétréci. Il y a le temps aussi pour la société, les activités sociales, caritatives, autre chose. Et puis, bien sûr, le temps pour les activités domestiques, si on peut dire ça, tout le monde en est là. Et on est toujours dans cette assimilation de la rentabilité du temps professionnel. Or, non, c'est pas parce qu'on en fait plus qu'on est poussé à en faire plus. Au contraire, on se pose la question de, dans ces quatre secteurs, comment je me pose aujourd'hui, qu'est-ce que je vais privilégier et pourquoi ?
Quand on est désorganisé, on est souvent convaincu que mener plusieurs tâches de front permet de travailler deux fois plus. Et souvent, la personne désorganisée pense que l'organisation va lui faire perdre du temps.
Tout à fait. En fait, la personne qui est comme ça désorganisée, on va dire qui est éparpillée, qui estime que si elle a cinq dossiers devant elle et qu'elle va traiter les cinq à la fois, sautant d'un mail, un coup de téléphone, à regarder un rapport, a ce sentiment que devant cette masse devant elle, eh bien, elle est très productive et que quand on va lui dire, prenez le matin juste cinq minutes et vous décidez ce que vous faites aujourd'hui, quelles sont vos priorités, quels sont vos objectifs, qu'est-ce qui est en harmonie avec vous. Elle estime, cette personne, que c'est 5 minutes de trop, 5 minutes de perdu, alors qu'elle est si rentable. Or, toutes les études ont montré que non, et qu'il faut faire une chose à la fois.
Être organisé ne veut pas être esclave de son agenda.
Pas du tout. Pas organisé. On s'organise, on est flexible. On a prévu de faire quelque chose, et puis on s'aperçoit qu'on n'a pas, en fin de compte, cette espèce de budget temps. Eh bien, on peut se poser la question, comment je peux faire ça? Mais avec un autre moyen, pas celui que j'avais prévu. C'est toujours avoir cette flexibilité. De dire, on va s'adapter au fur et à mesure de la journée. Et on n'est pas, donc, esclave.
Fabien Olicard.
Oui, je suis tout à fait d'accord. La souplesse, le mot flexibilité, ça me parle beaucoup parce que moi, dans mon bouquin, je parle toujours de mon expérience et je tire la conclusion qui s'est passée à ce moment-là. Et donc, au début, quand j'ai commencé à m'organiser, justement, je me disais, non, j'ai écrit ça dans l'agenda, faut que je tienne ça, etc. Effectivement, ça a implosé, explosé, les deux en même temps, ça a été terrible. Et c'est là où pareil, j'ai compris, par la force des choses, que non, effectivement, fallait être flexible. C'est-à-dire que si ça tient plus, il faut rebouger. L'agenda n'est qu'un guide pour ne pas oublier, en fait. Moi, mon après-midi, cet après-midi, j'ai dû complètement le changer avec tout ce qui s'est passé parce que ça allait être trop compliqué. On recale, on voit ce qui n'est pas important, qu'est-ce qu'on peut décaler à la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il faut maintenir, etc.
Vous êtes partisan, vous, de l'agenda ?
Moi, je suis partisan de l'agenda. Personnellement, ce qui fonctionne avec moi, c'est l'agenda électronique, parce que j'aime quand les choses sont propres, je suis un petit peu monomaniaque, et comme j'écris très mal, ce serait une vraie douleur pour moi de rayer dans un agenda papier. Mais oui, je suis très partisan de l'agenda, qui permet en plus parfois de le partager avec d'autres personnes.
Bonjour Anne, bienvenue.
Bonjour.
Alors, quel est votre rapport à la gestion du temps, chère Anne ?
C'est un peu chaotique maintenant. Enfin, chaotique, non, c'est pas vrai. Parce que mes enfants ont à manger et ont des vêtements propres. Mais quand j'ai fait mes études, mon doctorat et quand je travaillais, il n'y avait pas de problème à avoir une organisation bien propre avec un agenda, avec tout ça. Alors, j'ai toujours un agenda, mais il y a les événements des autres qui se sont mis dedans. Mmh. Et j'ai deux enfants et en fait je passe mon temps à préparer l'un pendant que l'autre attend. Bref, j'amène l'un à un endroit, je le récupère, voilà. Et donc du coup, moi, du temps pour moi. Alors j'ai du temps pour écouter des podcasts, regarder les vidéos de Fabien Ricard d'ailleurs. Mais ça donne pas du temps pour moi, sauf si j'arrêtais de dormir la nuit, mais avec un bébé de 6 mois, c'est un peu compliqué. Enfin, je ne dors déjà pas la nuit. Voilà. La gestion du temps peut être compliquée. Enfin, oui, compliquée parce que je gère pas que mon temps. Mmh.
Voilà. C'est très intéressant ce que nous dit Anne, docteur Mirabel Sarron. Mmh. Comment on peut aider Anne à se décharger de cette charge mentale liée à la gestion du temps?
Oui. Alors effectivement, on entend bien chez Anne une vraie charge mentale. Bah, l'idée, c'est de faire tous les temps. Elle a effectivement des enfants en bas âge, donc il y a ce temps par rapport aux enfants et par rapport à tout ce qui est habillé, l'accompagnement, tout ce que Anne vient de très bien nous décrire. Il y a le temps des autres, effectivement, donc elle a à charge. Et puis, comment elle va mettre du temps pour elle? Est-ce que le temps pour écouter les podcasts est un temps suffisant ou elle a besoin encore de un peu plus de temps à un moment donné, avoir une demi-heure pour elle et se poser, peut-être ne rien faire, penser, rêver, ou réfléchir à de prochaines vacances, ou un prochain week-end, ou une sortie avec ses enfants? Donc, c'est vraiment le matin de se dire, voilà, est-ce que ce temps pour moi, est-ce que le podcast que j'ai prévu, est-ce que ça me satisfait? Est-ce que c'est vraiment ça? Et voilà, et puis redéfinir à chaque fois, mais se poser le matin. On comprend bien qu'il y a plein de contraintes, hein, les enfants en bas âge, tout ce qu'il y a, et que l'agenda est vite rempli. Mais pour rebondir sur l'agenda qu'on a dit tout à l'heure, je pense qu'il est bon d'avoir quand même un agenda électronique, enfin la forme qu'on veut, et poser le matin, bah voilà comment ça s'est prévu et comment je me dégage du temps pour moi, parce que c'est quand même ça. En dégageant du temps pour soi, qu'on réduit sa charge mentale.
Fabien Licard.
Oui, ben moi j'ai écouté attentivement Anne. Bon, on entend bien que ce qu'elle veut, c'est dormir. Et on le comprend. Le problème avec des enfants en bas âge, c'est qu'effectivement, on est à charge du temps de l'autre. Et cette charge du temps de l'autre, elle prend sur notre temps personnel et sur tous nos temps. Et si à un moment donné, on voit que ça sature, qu'on manque de temps là pour le coup pour gérer aussi le temps des autres, il y a des solutions à trouver qui sont pas simples, j'en conviens, mais il faut les trouver, c'est-à-dire je me fais aider d'autres personnes. Si vraiment dans tout ce que je fais, je n'ai plus de possibilité de dégager assez de temps pour pouvoir dormir, si c'est mon besoin principal, hein, sur la pyramide de Maslow, on est tout en bas, eh bien il va falloir solliciter d'autres personnes. Alors ça peut être l'entourage, la famille, les amis, ou ça peut être en engageant quelqu'un pour se relibérer du temps en plus. Si on manque du temps, on prend celui des autres.
François Lelore.
Oui, mais en écoutant les deux invités, je réalisais qu'au fond, Pourquoi on fait des émissions sur le temps, on fait des livres pour gérer son temps, et pourquoi ça prouve que ça n'est pas si facile et que ça n'est pas si naturel. Et ben parce que quand nous étions tous des peuples premiers, quand on était des chasseurs-cueilleurs, et notre cerveau n'a pas tellement évolué depuis, eh bien on n'avait pas à gérer son temps. Je veux dire, on partait à la chasse, on allait cueillir, quand il faisait nuit, on se mettait dans notre abri. Donc la gestion du temps, je veux dire, c'est l'agriculture qui nous a jetés dedans, et après encore plus l'industrie. Donc, à la limite, c'est normal que les gens, beaucoup, se sont insatisfaits en disant « je gère mal mon temps, c'est pas facile », parce que ça ne nous est pas naturel, au fond.
Anne, est-ce que vous culpabilisez quand vous n'arrivez pas, quand vous ne parvenez pas à gérer votre temps et la charge mentale afférente ?
À fond, oui. D'autant plus que, bon, en général, voilà, comme je dis, mes enfants ont à manger, mon mari aussi. La maison est propre, etc. Tout est fait, mais c'est plus du temps... Ça va être du temps pour moi, dans la mesure où, après deux enfants, je suis en période pour rechercher du travail, etc. Il y a plein de choses que je voudrais faire et que je ne trouve pas un temps suffisamment long, parce que une demi-heure, c'est compliqué d'avoir une demi-heure pour moi, c'est pas compliqué. Il me faut un peu plus de temps pour ne faire que répondre à une offre d'emploi, pour faire une lettre de motivation qui se tient, un CV qui soit adapté à ce à quoi je postule. Ça me prend plus qu'une demi-heure. Et avec deux enfants, une demi-heure, c'est compliqué.
Bonjour Julia Foyce, vous aviez envie de réagir
évidemment, depuis
au témoignage de Anne.
On dit oui, il faut apprendre à déléguer, à se faire aider. En fait, déjà, le concept même de se faire aider, mais il y a un mec à la maison, il peut bosser aussi, non? C'est-à-dire que vous rentrez, vous dites mon mari a à manger, il vous fait un peu à manger aussi?
Oui.
Combien de fois par an?
Non, là, c'est pas
pour les grands soirs.
Pour dire vrai, je pense une fois la semaine.
Waouh.
Merci Anne en tout cas d'avoir témoigné ce matin. Bonjour Claire, bienvenue.
Bonjour.
Alors, quel est votre rapport à la gestion du temps?
Moi, je téléphone pour un peu un peu mon changement, un peu de manière de voir les choses, par nécessité, parce que j'ai eu un gros problème au dos, pareil, et une énorme fatigue qui m'a obligée à, en fin de compte, rester une semaine sans rien faire chez moi et à rester au lit, tellement j'étais fatiguée, parce que j'en faisais tellement trop que il y avait une nécessité pour moi de me reposer. Voilà, donc maintenant j'essaye de me contrôler, enfin pas me contrôler, mais de faire un peu différemment. C'est-à-dire que quand j'ai de finir déjà les tâches que je commence, parce que souvent je me mettais beaucoup de tâches sur ma fourche, mais j'en finissais aucune. Donc c'était fatigant. Et donc j'essaye de limiter mon temps sur des choses précises. Par exemple, là j'ai des souvent, j'imagine que beaucoup de femmes c'est comme ça. Les machines, quand on a du linge, on a l'impression qu'il faut tout de suite faire les machines, parce que sinon ça stresse, etc. Alors que là maintenant, vous voyez, j'ai une machine à faire, je la laisse de côté, je me dis de toute manière, c'est pas urgent, je préfère utiliser mon temps pour autre chose. Voilà.
Fabien Olicard.
Voilà, ce matin, par exemple, c'est ce que j'expliquais, ce matin, j'avais rendez-vous chez la kiné, et elle a voulu me redonner un autre rendez-vous, qui tombait sur autre chose que j'avais à faire, donc ça allait être un peu la course. Avant, j'aurais dit oui, parce que je disais un peu oui facilement, et là, j'ai dit non, voilà.
Sur le pouvoir du non, Fabien Olicard, vous l'évoquez dans votre livre.
Ah oui, ça, le pouvoir du non, le pouvoir du refus est aussi très très important. Hein. Vous savez, le temps, c'est ce qu'il y a de plus personnel, sûrement dans sa vie, dans son rapport aux choses. C'est transversal, on le trouve partout. Et si on ne sait pas dire non, si on ne sait pas refuser quelque chose qu'on ne souhaite pas ou qu'on n'avait pas décidé, on laisse les autres s'approprier notre temps. Et le temps est lié à l'énergie, donc en fait, la vie extérieure s'approprie notre propre énergie. Ce serait dommage. Donc il faut savoir dire non, effectivement.
Docteur Mirabel Sarron, oui. Sur le pouvoir du non pour peu mieux gérer son temps.
Tout à fait. J'avais évoqué aussi dans notre ouvrage le pouvoir de dire non et de se respecter par rapport à ses objectifs. Et l'auditrice souligne quelque chose de très important aussi, c'est le côté je fais par étapes. Je peux faire par étapes, je ne suis pas obligée de faire, je fais peut-être ma tâche d'un bout à l'autre, mais peut-être pas le même jour. Je peux très bien faire un bout aujourd'hui, un autre bout demain, et puis je finirai en fin de compte après-demain. Donc on a aussi cette possibilité de faire, en étapes et avoir la satisfaction finale qu'en 3 jours c'est fait, alors que peut-être j'aurais traîné beaucoup plus.
François Lehors.
Oui, dire l'auditrice est un exemple d'une personne qui remet en cause sa gestion du temps après un problème de santé. Et ça, on observe ça très souvent. Les gens brusquement réalisent qu'ils n'ont pas tenu compte de leurs priorités, ils n'ont pas tenu compte des besoins de leur corps. Et c'est le moment. Alors peut-être que cette émission va faire que des gens vont le faire avant le problème de santé.
Merci beaucoup Anne d'être intervenue ce matin. Allez, il est temps de retrouver la chronique Passons Genre de Julia Foyce.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Un garçon ou une fille?
Il y a une femme là-dessous.
Non.
Alors qu'est-ce que c'est?
C'est un homme.
T'as dit à tout le monde que t'es un garçon?
T'as menti?
Bah oui, 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 oui. Mais moi j'ai des poils qui me poussent sous le maquillage et tu réclames le droit de fille, voilà.
Julia Foyce, chaque semaine, vous attrapez les stéréotypes de genre, vous les retournez, vous les éparpillez façon puzzle. Et cette semaine, c'est un mot dièse qui vous intéresse, un poupon pour un garçon, diffusé par le magazine Chica.
Chica, magazine un peu plus rock'n'roll que la moyenne, hein, pour les filles de 7 à 12 ans. Le principe de cette campagne, c'est d'offrir donc un poupon à un petit garçon, de le prendre en photo avec et de poster l'image sur les réseaux sociaux. Oui. Car si l'on se dit que les inégalités femmes-hommes, voire une forme de domination masculine, et qui sait peut-être, allez, une certaine violence faite aux femmes se construisent dès l'enfance, on peut imaginer qu'un enfant à qui on a systématiquement arraché des mains le poupon dont il voulait s'occuper accessoirement en le traitant de gonzesse ou de pédé pour les plus imaginatifs d'entre nous, que cet enfant donc grandisse avec une certaine idée de la virilité qu'on pourrait qualifier de toxique une fois arrivé à l'âge adulte. En fait, cette initiative prend corps dans un contexte bien plus large, dans un post-MeToo, où la brutalité des stéréotypes de genre nous montre autant leur stupidité que leur dangerosité. À la rentrée, le gouvernement a même adopté et fait signer aux acteurs du secteur une charte pour lutter contre le sexisme dans le jouet.
Et en quoi consiste cette charte?
À pas mal de choses. En fait, il y a par exemple l'organisation des rayons. On va pouvoir trouver des sabres laser aux rayons filles. Ah ben non, parce que ça n'existera plus. Les magasins et les catalogues seraient désormais conçus par univers. Jeux de société, jeux de plein air, jeux de main, jeux de vilain. Ça, je déconne. Mais c'est vrai, en revanche, un label pour tous sera désormais étiqueté sur les boîtes de jeux scientifiques, les mécanos et les jeux d'adresse. Et puis surtout, les vendeurs vont être formés. On arrête de demander aux parents s'ils viennent pour un petit garçon ou une petite fille. On leur demande plutôt ce qu'aime leur enfant. C'est tout bête, hein? Ouais, mais c'est la base. Vous aimiez quoi, vous, Ali, quand vous étiez enfant?
Eh bien, à la fois les petites voitures, j'étais fou des petites voitures, et des dinettes.
Et on vous laissait jouer à la dinette aux petites
voitures. Oui, entre frères et sœurs, on jouait à la dinette et aux petites voitures.
Et ça nous donne une quotidienne sur France Inter. Voilà, c'est ça, elle est là, la bonne idée. Alors moi, j'adorais me balader toute la journée avec une croûte de parmesan que je cachais sous mon lit. Du coup, on trouvait ça ni au rayon fille, ni au rayon garçon.
Bonjour l'odeur.
Un enfer. À la grande récré, en revanche, non, j'arrête là. Je parle pas de la grande récré puisque l'ancienne maître a cassé en ce moment sur son adhésion à la charte et sur sa politique en faveur de jouets mixtes parce que visiblement c'est aussi un filon déjà creusé par Céline Dion. Oui, l'an dernier. Avec sa marque de vêtements et de jouets non genrés, et quand la prêtresse du César Palace à Vegas se lance dans quelque chose, comment vous dire, ça sent autant la bonne affaire que l'arnaque.
Et on assiste donc au fameux féminisme washing.
Alors, pas forcément chez elle, on sait pas. Mais attention quand même à cette pratique qui consiste à se repeindre en violet pour la galerie, à se donner de faux airs féministes à une époque où ça devient bon pour l'image, en nous prenant en réalité pour des débiles profonds. Je vous donne deux exemples récents. Mattel s'est fait un très joli coup de pub à la rentrée en commercialisant les premières poupées non genrées. Elles ne sont ni filles ni garçons à la base. C'est à toi de le décider en fonction de ton envie du moment. Miser sur la fluidité sexuelle à une époque où l'on interroge les frontières du genre, c'est le buzz assuré. Ça a donc très bien marché. En tout cas, du point de vue de la com. Sauf que, quelques mois plus tard, était lancée une pétition contre le fabricant qui fait travailler ses ouvrières en Chine dans des conditions déplorables, cadence infernale, humiliation répétée, salaire ridicule. On a vu mieux pour la cause des femmes. Autre exemple, Monopoly, qui nous invente cette année le Miss Monopoly, où l'on oublie le haut de forme, le cigare, le monocle et la spéculation immobilière. La seule chose à acheter, ce sont des inventions mises au point par des femmes, et donc forcément éthiques, et donc forcément responsables, et je suppose douces et tout ce qu'on veut. Hein. Et les joueuses touchent plus chaque fois qu'elles repassent par la case départ pour compenser les inégalités salariales entre hommes et femmes. Alors, les gars, en fait, on ne demande pas une espèce d'aumône pour nous faire oublier la différence de salaire ou pour nous payer tout le boulot qu'on se tape à la maison. Je reprécise, hein, c'est pour cette émission, ça vaut le coup. 80-20, hein, 80% des tâches ménagères, c'est les femmes, 20% les garçons. Non, on aimerait plutôt des changements de fond, vous voyez. Alors, comment vous dire la prochaine fois? Vous nous bossez un petit peu plus le truc, ce serait mignon.
Hein, la chronique Passons Genre de Julia Foyce, à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Vous Fasse. Au programme demain dans Passons Genre l'émission, à 20h.
Ah ah, la justice est-elle sexy? Oui monsieur, oui madame.
On va écouter ça. Dans quelques instants, nous continuons à vous délivrer quelques conseils pour mieux gérer votre temps. N'hésitez pas à intervenir au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse.
you make my earthquake. Oh, you make my earthquake. Riding around, they'll be shaking me up and it's making my heart break. You make my earthquake.
Tyler, the Creator.
Allez, réveillez. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h42. Et ce matin, nous vous aidons à mieux gérer votre temps. Nous attendons toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000.
Hier, j'avais 1h30 de temps pour moi. Quand je me dis, je sors du boulot, je vais me faire un petit shopping. Et là, ça commence. Non-stop des messages. C'est du style, on mange quoi? À quelle heure tu rentres? Où es-tu? Et je me dis même, je sers à quoi moi ici? Je suis l'attendante en fait, je suis l'attendante de service. Bon, donc je suis déjà en train de marcher, j'ai écrit en même temps, mais oui, je sais que c'est une erreur, je sais, ce téléphone devrait être dans le fond de mon sac. Vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait repasser à l'époque où les téléphones n'existaient pas. Il n'y aurait que des télégrammes. 3 jours de calèche pour me prévenir et me demander ce qu'on mange. Eh ben, tu verras quand tu arrives. Oui, enfin quoi que, non. Non, parce que j'aime quand même bien savoir comment ils vont et tout ça. Non, revenir alors à l'époque où c'était un téléphone fixe. Ça c'était bien, si on n'arrivait pas à temps pour répondre, on n'arrivait pas à temps pour répondre et les répondeurs n'existaient pas. Oui, moi je vote tout de suite les années 60, un téléphone fixe, ça c'est bien.
Extrait de la vidéo YouTube Vie de mère de Véronique Gallo. Docteur Christine Mirabel-Sarron, comment mieux gérer l'usage de son temps? Quelle est la première mesure d'urgence?
Moi, je dirais la première mesure d'urgence, déjà savoir ce qu'on fait de son temps, c'est-à-dire s'observer. Donc, si j'avais une suggestion à faire, c'est même si on a l'impression qu'on sait gérer son temps, qu'on a une bonne visibilité dessus, c'est de se dire, voilà, déjà sur une journée, déjà marquer heure par heure, qu'est-ce que je fais de ce temps? Et puis étendre à une semaine habituelle pour vous, et de noter au final là-dedans, qu'est-ce qui est confortable, qu'est-ce qui est pas confortable. Mais déjà avoir une photographie, qu'est-ce qui se passe, même si on a l'impression qu'on sait déjà et que tout ça est bien inutile. Vraiment, je vous incite à faire cet état des lieux sur une semaine.
Et on peut être surpris par le nombre d'activités dévoreuses de temps et d'énergie qu'on n'imagine pas.
Totalement. C'est justement cet état des lieux est souvent très surprenant, même pour si on a l'impression qu'on sait déjà, on est dévoré par peut-être effectivement ce qu'on évoquait tout à l'heure, les activités ménagères, les activités des enfants, alors qu'on pensait pas que ça prenait tant de temps que ça, ou par les voisins, parce qu'on a l'habitude de les aider, de garder leur chien, d'aller promener autre chose. Donc l'idée, c'est vraiment commencer par là, et après, on peut décider pour soi-même qu'est-ce qui est important.
Il faut identifier les périodes inutilisées de la semaine. Par exemple, je rentre plus tôt du travail à la maison, et au lieu de faire une activité qui me tient à cœur, lire Proust, regarder une série, j'en profite pour faire du rangement, alors qu'il n'y a pas urgence à faire le ménage.
Tout à fait. C'est-à-dire, on est pas obligé de tomber dans un stéréotype ou une habitude ou un rituel. C'est-à-dire, tiens, je rentre plus tôt. Ah bah, profitons-en, je vais faire du rangement. Alors que, il faut, on l'a dit tout à l'heure, se poser la question. Bah, super, j'ai une demi-heure. Qu'est-ce que je veux, là, maintenant, pour moi? Qu'est-ce qui est pour mon équilibre, pour mon harmonie? Cette demi-heure, bah, peut-être, je vais m'asseoir. Peut-être, je vais faire du yoga. Peut-être, m'écouter de la musique que j'aime bien. Et du coup, je me recharge, c'est-à-dire, on a parlé beaucoup tout à l'heure, il y a la charge mentale, la charge physique, parce que peut-être j'ai beaucoup couru ce matin depuis les transports et que j'ai aussi besoin de me poser. Et puis, on parle aussi de la charge relationnelle, c'est les autres. Peut-être que depuis ce matin, je suis tout le temps en interaction, par texto, par téléphone, de vive voix, et que là, j'ai besoin un peu de silence pendant une demi-heure.
Fabien Olicard, oui. La mesure d'urgence.
Bah, oui, et puis quand vous dites qu'est-ce qui me ferait plaisir, c'est ça, c'est ne culpabilisez pas aussi et ne jugez pas les choses que vous avez envie de faire. Moi, je suis monomaniaque, j'adore ranger, j'adore faire le ménage.
Et ben c'est, si ça vous plaît.
Mais en vrai, plus je suis chargé mentalement, plus je sais que ça va me faire du bien de couper et de faire le ménage en écoutant un podcast. C'est ça qui me fait du bien parce que en rangeant ma maison, je range ma tête en même temps. C'est l'impression que ça me donne. Donc, il faut vraiment s'écouter de ce côté-là. Et puis. D'une manière générale, évitez effectivement les interruptions. La première, elle est quand même technologique. Coupez vos notifications de mail et décidez de quand vous serez interrompu. Je pense à ça parce que l'extrait parlait du téléphone. Vous imaginez, les mails, c'est comme si vous laissiez votre facteur arriver 20 fois par jour chez vous pour vous donner une pub. Vous ne voudriez pas ça.
Et puis, on n'est pas obligé de répondre aux appels, aux SMS.
Exactement.
On peut mettre son téléphone sur mode avion sans culpabiliser.
Oui. Et au contraire, ça aide à ne pas culpabiliser parce que ce qu'on ignore ne peut pas nous faire souffrir. Et on décide après d'une plage où on rallume.
Oui, dans ce que disait à la fois Fabien et aussi Christine, c'est l'idée du temps pour soi, manger parce qu'on se dit « Ah bah tiens, là j'ai du temps, mais je vais d'abord faire toutes ces corvées, je vais mettre tout ça à jour. » Et ça, c'est terrible parce que ça, on n'arrive jamais à tout mettre à jour puisque le lendemain, il y en aura d'autres. Donc c'est très important à un moment de se dire « Bah non, là c'est du temps pour moi, bah, finalement les corvées attendront pas remplir le temps qui parfois miraculeusement se libère par les corvées. »
Et Fabien Olicard, il faut faire attention au syndrome du médecin, qui nous guette tous. Expliquez ce qu'est ce syndrome du médecin.
Oui, c'est un truc, j'ai appelé ça comme ça un jour de ma vie, parce que j'avais l'impression que dès le début de la journée, tout était bien planifié, justement, et qu'au fur et à mesure de la journée, dès ma deuxième ou troisième tâche à faire. Alors attention, quand on dit le mot tâche, ici, dans cette émission de tout à l'heure, on ne fait pas de distinguo entre le professionnel et le personnel. Le tâche, c'est un truc à faire, point, quoi. Ou un truc qu'on a envie de faire. Et bien, ma deuxième ou troisième tâche, elle prenait déjà du retard, et puis, comme un médecin qui, lui, est interrompu dans son planning à cause d'urgence, de réelle urgence, souvent vitale, eh bien, moi, tout se décalait en permanence. Et je me suis dit, OK, il faut éviter ce syndrome-là du médecin. Et pourquoi un médecin est en retard? Parce qu'il a des urgences vitales. Donc, moi, quand je me mets en retard, est-ce que les choses qui m'ont interrompu étaient vitales? Et si elles ne le sont pas, ça me permettait justement de commencer à dire non, à dire plus tard, à dire pas maintenant, ou à faire des choses comme je fais aujourd'hui aussi. Je suis capable chez moi de dire, chez moi ou au bureau, on ne me dérange pas pendant une heure et demie, s'il vous plaît. Parce que je dois écrire un texte, parce que j'ai envie de ce temps-là pour moi. Donc aussi, d'anticiper ces interruptions, celle qui fait que tout se décale, c'est aussi prévenir les autres en amont, en fait.
Alors, vous abordez une question un peu taboue dans votre livre, Fabien Olicard, la nécessité de rompre avec des relations parasites qui aspirent notre temps.
Oh oui. ça, c'est toujours très compliqué à aborder et à recevoir pour les autres, mais je prends plusieurs types de relations qui peuvent s'arrêter ou qui doivent s'arrêter. Encore une fois, en parlant d'exemples personnels, j'ai des amis avec qui, malheureusement, le temps a passé, les objectifs de vie ont passé, le mode de pensée a passé. Et en fait, ces amis, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à chaque fois que l'un de nous deux appelle, l'autre se dit « Oh là là, faut que je décroche. » Et puis quand est-ce qu'on se voit ? Ouais, faut qu'on se voit. Putain, j'ai pas... Et on n'a pas vraiment envie de se voir, etc. Et il y a un truc qui est terrible, c'est qu'il n'existe pas de rupture en amitié. Ça n'existe qu'en amour. Alors j'ai créé la rupture amicale. Je suis capable d'appeler quelqu'un ou de lui écrire une lettre en disant « Écoute, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête ça et tout. » Eh bien, à chaque fois que je l'ai fait, personne ne l'a mal pris réellement, même si sur le coup, il y a une petite tension. Et quand on se recroise avec ces personnes, je l'explique dans le livre, on est capable de manger ensemble ou de prendre un café à l'improviste maintenant. Mais il n'y a plus cette charge de « Oh là 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 là, faut qu'on voit un tel et un tel, ah bah oui, parce que tu comprends ça. » Et j'ai vu ça aussi chez mes parents et dans mon entourage. Il faut savoir couper les relations.
Mais tu ne peux pas faire pareil avec ton enfant.
Si
on se recroise, on mangera à l'improviste.
Non,
docteur Mirabel Sarron, qu'est-ce que vous pensez du fait de rompre avec des relations parasites qui nous pompent du temps, qui nous vampirisent?
Alors moi, en vous écoutant, je voyais un peu deux cas de figure. Je suis totalement d'accord, on a des relations qui nous vampirisent. Moi, sur des exemples personnels, sont surtout professionnels, c'est-à-dire parce qu'on va être là, capable de donner des informations, de remplacer, d'être à l'écoute, d'envoyer un diaporama ou je sais pas quoi, c'est-à-dire d'être vraiment être pompé professionnellement et du coup du temps par texto, par mail, par coup de téléphone. Après, au niveau amical, c'est plus compliqué parce qu'on voit bien... on a une amie de longue date, même si on n'est plus vraiment dans une relation amicale, mais elle vient se confier. Elle a un souci amoureux, elle a un souci. C'est compliqué de dire, bah voilà, écoute, bon voilà, non, en fin de compte, j'ai plus envie d'être ton
ah
amie.
Oui.
J'ai plus envie d'être ton amie. Parce que oui, bah oui, hier soir, ça m'a pris une heure et demie de t'écouter parce que t'avais pas le moral ou ça m'a pris, voilà. Donc, il y a un peu une, je dirais oui, dans le monde professionnel, c'est vraiment important de voir les relations qui nous vampirisent en temps d'énergie, effectivement, de dire, et ben voilà, stop, restons amis, mais voilà, là je peux pas, je dis stop, je dis non, et puis peut-être demande aussi à d'autres personnes, diversifie tes ressources, voilà, ça oui, ça me semble très bien et vraiment protecteur. Et après, par contre, dans le monde amical, j'irai au cas par cas.
Le sage François Lelore.
Mais moi, je pense effectivement au monde amical et j'allais dire, je trouve qu'en tant que psy, on a une excuse parce qu'on peut dire. Écoute, je t'aime beaucoup, mais là, tu sais, j'ai entendu des problèmes des gens toute la journée. Donc, je suis sensible à tes soucis, mais je préfère que t'en parles à quelqu'un d'autre.
Bonjour Linda, bienvenue.
Bonjour.
Alors vous...
Vous avez répondu à pas mal de questions déjà.
Très bien. Alors vous pensiez être une pro de l'organisation, c'est ça?
Bah écoutez, ouais, moi je pensais être une pro de l'organisation. Je suis conditionnée comme ça depuis que j'ai 14 ans. J'en ai 37 aujourd'hui. Je suis à mon compte. J'ai 3 enfants. Je suis mariée. Je suis dans le domaine du luxe, donc ce qui me génère un stress supplémentaire. J'arrive à peu près à faire tout ce que je veux faire, mais à la fin de la journée, je me retrouve dans un stress épouvantable. Et j'ai l'impression que les 24 heures dans la journée sont trop courtes. Et ça me fait dormir à des 3-4 heures du matin, un peu tous les jours. Donc je cumule une fatigue psychologique, ce qui fait que je suis un peu plus performante au travail, beaucoup moins patiente avec mes enfants.
Merci beaucoup Linda, on a un petit problème de son, mais on a en tout cas compris ce que vous aviez à nous dire, Fabien Licard, sur le cas de Linda, qui aimerait peut-être avoir des journées de 48 heures, 72 heures.
Et oui, et en fait là ce qu'on entend avec Linda, c'est qu'elle dit j'ai aucun problème à m'organiser, mais en fait à la fin j'en peux plus et je vais imploser. Donc ça veut dire qu'une journée, elle peut être rythmée, mais qu'à un moment donné, là elle nous parle d'un combat en fait. Et à partir du moment où il y a une souffrance, quelle qu'elle soit, c'est que quelque chose ne va pas. Et donc, elle croit être bien organisée, mais en fait, elle s'est juste surchargée jusqu'aux limites du possible.
Docteur Mirabel Sarron.
Tout à fait. Et l'idée, on l'a entendu déjà avec Anne tout à l'heure, la première auditrice, c'est quand même protéger son sommeil. C'est la base. Le sommeil, c'est vital, ça régule nos hormones, ça régule le stress, ça régule nos émotions. Voilà, il va falloir protéger son sommeil et de se dire stop, ma journée, je la programme pas jusqu'à 1h du matin ou 3h du matin, mais j'arrête de la programmer à 23h.
Voilà. Alors, François Lelore.
Oui, mais je dirais que l'auditrice, elle est confrontée à deux mangeurs de temps auxquels il est difficile de dire non. C'est la vie professionnelle qui peut être très, très exigeante. Et puis les enfants qui sont aussi très exigeants. Donc elle est vraiment prise entre les deux. Et on pense à l'idée, je crois que c'est pas bien qu'il dise ça, il y a un moment peut-être il faut se faire aider plus.
C'est ça, bien sûr, bien sûr. Et puis admettre aussi que certains objectifs peut-être sont à revoir. Je pense pour le coup à la vie professionnelle. J'ai envie de réussir personnellement dans ma vie. Et puis à un moment donné, un jour, j'ai décidé que je virais les ordi de chez moi. Et qu'à 19h, quand je rentrais chez moi, le monde professionnel n'avait plus accès à moi. Donc je passe en mode avion et j'ai plus d'ordi. Au début, ça a été une angoisse terrible. Et j'ai eu l'impression de passer à côté de plein de choses. Et puis en fait, ça va. Hein. Quelques années après, tout va bien. Et il y a aussi parfois des décisions à prendre pour réguler cette charge.
Moi, je fais pareil. Le vendredi à 18h jusqu'au lundi matin. Le week-end est sacré. Alors en ces temps de grève des transports, nous sommes nombreux à attendre, à avoir l'impression de courir après le temps, de le perdre à juste titre. Pour vous, il faut profiter de ces temps d'attente pour visualiser. Expliquez-nous Fabien Olicard.
Oui, un temps d'attente n'est pas un temps perdu à partir du moment où on sait qu'est-ce qu'on peut en faire. Et alors, moi, je me sers beaucoup de ces temps-là pour visualiser alors des choses que j'ai à faire, justement. Comme vous disiez tout à l'heure, c'était très intéressant de se dire projeter ma journée du lendemain, projeter ma semaine du lendemain, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire. Je visualise tout ça et puis je visualise aussi quand c'est plus créatif ou quand c'est professionnel ou quand c'est de l'organisation de vacances, toutes les possibilités qu'il y a et je me laisse fantasmer et en fait mon cerveau commence à me donner des pistes d'idées, des réponses et donc ça c'est intéressant et je visualise aussi pour travailler ma mémoire qui est liée à l'imaginaire et pour re-rentrer des choses dedans, pour faire remonter des informations, des souvenirs, bref, c'est un temps personnel qui se passe dans ma tête, dans ces temps d'attente.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces temps où on a l'impression de perdre son temps, docteur Mirabel Sarron, dans les files d'attente, dans les...
Je rebondis comme Fabien, c'est-à-dire c'est aussi son temps personnel, les files d'attente ou les transports. L'idée, souvent, c'est je dis, prenez avec vous ou on prend avec soi, qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie. Moi, je veux très bien lire un poème, lire un texte qui me fait du bien, parce que j'adore lire ce texte. Je peux m'apporter des vidéos, je peux m'apporter un livre que j'aime bien relire ou que je n'ai pas fini de lire. C'est-à-dire, j'ai avec moi... En tout cas, des possibilités que j'ai du coup sous la main. Je les prends ou je les prends pas. Ou je peux me poser, visualiser ma semaine suivante, ou une question qu'on m'a posée par mail. Je vais avoir l'embarras du choix pour faire ce qui est le mieux pour moi à ce moment-là.
François Lelor.
Mais c'est là que je vois que Christine est une championne de la gestion du temps. Et en fait, c'est un peu différent. Dans les périodes d'attente, comme ça, de temps vide, en fait, moi, je laisse ma pensée flotter. Et j'ai remarqué que c'est là que j'ai toujours eu les meilleures idées pour les livres, en fait. Mais c'est voilà, et souvent mieux que quand je me dis, tiens, je vais réfléchir à quelque chose.
Pourquoi mieux gérer ses émotions permet de mieux gérer son temps, François Lelor?
Parce que, par exemple, une des émotions... De base, c'est l'anxiété qui vous pousse justement à vous jeter sur les corvées au lieu de vous dire, bah non, finalement, c'est pas urgent, je peux les mettre de côté. Et puis, il y a la culpabilité qui est une autre émotion et qui, enfin, à la fois une pensée d'émotion qui vous pousse à trop dire oui, à ne pas oser dire non. Vous voyez? Et puis, il y a bien sûr la colère qui peut arriver quand on a mal géré son temps et qu'à un moment, on arrive à un stade d'exaspération où la colère va exploser contre la personne qui se trouve là et qui n'est pas forcément responsable de la mauvaise gestion de votre temps.
Michael nous dit « Je suis effrayé de n'entendre que des témoignages de femmes qui sont débordées par les enfants ou la lessive. Comme l'a si bien dit Julia, il y a aussi un mec à la maison.
Appelez-nous. Ah non, il n'y a plus le temps.
Pardon. Oui, on peut encore prendre des appels. Comment faire ? Tiens, une question de Carmen qui nous dit « Quand on est lent et qu'on a besoin de plus de temps que les autres pour faire les choses. » Être lent et peu socialement admis et accepté, surtout en entreprise, François Lelor, la lenteur est combattue partout.
Le but de l'entreprise, c'est quand même la rentabilité au final. Et la rentabilité, c'est produire au maximum en moins de temps avec moins de ressources. Et à un moment, évidemment, ça peut aller à la limite de tolérance des gens. Et les gens lents, effectivement, sont malheureusement, risquent de sortir un peu du jeu.
Un dernier conseil, peut-être, pour terminer cette émission, Fabien Olicard, un dernier conseil que vous avez envie de transmettre à nos auditeurs.
Et peut-être le dernier conseil, c'est vraiment revenir sur cette base de connaître ses objectifs de vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? La base, hein, avec des mots-clés très simples pour vous aider à prendre aussi des décisions plus rapidement. Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? Est-ce que j'en fais plus? Est-ce que j'en fais moins? Est-ce que j'ai besoin de plus de temps pour moi ou pas? Ça va avec quels sont vos objectifs de vie les plus purs possibles.
Christine Mirabel Sarron.
Parfaitement, je renforce. Vous complétez très bien. Je renforce parfaitement. C'est vraiment qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui, puisque notre vie change, notre contexte de vie change. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour moi, pour cette journée, pour cette semaine, afin d'être vraiment en harmonie avec ses valeurs, ses objectifs et du coup, voilà, on arrive en fin de journée en harmonie.
Julia Foyce.
Alors, ça ne marche que pour les personnes comme l'auditrice qui nous a appelé, qui sont à leur compte. Mais moi, quand ma journée démarre trop mal, qu'il y a vraiment une avalanche de courriers que je ne veux pas recevoir, de gens qui me polluent la tête, qui me polluent la vie, à un moment donné, je dis stop, je la recommence, cette journée. Donc, je me mets en mode avion, je vais me coucher. Mais vraiment, je dors une heure. Oui, et du coup, c'est une nouvelle journée qui commence et ma journée pourrie, elle est terminée.
François Lelor pour terminer.
Moi, ce que j'essaie, c'est en fait d'avoir des lieux qui correspondent à des activités. Et c'est en fait, c'est le lieu qui détermine mon emploi du temps.
Allez, je recommande vos deux livres, vraiment très utiles et qui se complètent très bien. Christine Mirabel Sarron, Bien gérer son temps pour vivre mieux. Fabien Olicard, Votre temps est infini. C'est publié chez First. Merci également François Lelor. Demain, on s'intéresse aux vertus thérapeutiques de la poésie. Belle journée à l'écoute de France Inter.